VOA Afrique, les infos. À Washington, Camille Grosdidier.
Bonjour au Tchad. Les responsables de la DDS, la police politique Hissène Habré, l'ex-président tchadien, écope de la réclusion à perpétuité pour assassinat et torture. Un verdict rendu aujourd'hui par la Cour criminelle spéciale de N'Djamena. Les condamnés doivent également payer 75 milliards de francs CFA de dommages et intérêts aux quelques 7000 victimes recensées. L'État tchadien devant prendre en charge la moitié de cette somme. Le point avec Eddie Isango.
Cela fait 15 ans que les survivants du régime de l'ex-président tchadien ainsi que leurs proches luttent pour qu'Hissène Habré, renversé en 1990, et ses complices soient traduits en justice. 28 accusés étaient jugés pour assassinat, torture, séquestration, détention arbitraire, coups et blessures et actes de barbarie. Parmi les 7 condamnés aujourd'hui à la réclusion à perpétuité, figurent les principaux accusés, Saleh Younous, ancien patron de la redoutée direction de la documentation et de la sécurité, ainsi que Mahamat Djibrin, présenté comme l'un des tortionnaires les plus redoutés du Tchad durant ses années noires. Hissène Habré, lui, doit être jugé pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de torture au Sénégal devant une cour d'assises spéciale.
Environ 500 enfants âgés de moins de 11 ans portés disparus dans le nord-est du Nigeria auraient été enlevés par des terroristes de Boko Haram. Selon les médias, la ville de Damasque, sous contrôle de Boko Haram depuis un mois, a été reprise par des troupes du Niger et du Tchad. Les habitants ont alors signalé que les djihadistes se seraient enfuis en emportant les enfants de la ville. Par ailleurs, le président nigérian Goodluck Jonathan a ordonné la fermeture des frontières maritimes et terrestres du Nigeria jusqu'aux élections présidentielles et législatives qui doivent se tenir samedi, a indiqué mercredi le ministère de l'Intérieur. Cette mesure qui doit prendre effet à minuit, c'est-à-dire 23h GMT mercredi, jusqu'à la même heure samedi, a été prise pour permettre le déroulement pacifique des élections nationales à venir, affirme le communiqué. Le Nigeria a des frontières terrestres avec le Bénin, le Cameroun, le Tchad et le Niger, rappelle l'AFP. La sécurité est un problème récurrent lors de la tenue d'élections dans le pays le plus peuplé d'Afrique, les antagonismes politiques réveillant parfois des rivalités ethniques et religieuses. Le Cameroun accueille une conférence sur l'intégrisme et l'extrémisme islamique. But de la rencontre, sensibiliser les responsables religieux musulmans du pays au danger de l'idéologie extrémiste défendue par des groupes comme l'État islamique et Boko Haram, la milice nigériane qui a récemment déclaré son allégeance à l'EI. Selon Souleymane Abba, membre de l'Association culturelle islamique du Cameroun, ce groupe a organisé la conférence en collaboration avec le gouvernement pour tenter d'empêcher l'idéologie djihadiste de s'étendre au Cameroun. Au Togo, le rendez-vous avec les urnes pourrait bien être reporté. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a proposé un report de 10 jours de l'élection présidentielle qui était prévu le 15 avril, un délai qui permettrait une révision du fichier électoral en réponse à des plaintes formulées par l'opposition et par la société civile. Des détails avec Salwa Jafari.
C'est une recommandation qui a son poids. Les conclusions de la CEDEAO ne sont généralement pas prises à la légère. Son président, qui se trouve être également président du Ghana, était hier à Lomé pour une journée de consultation, à l'issue de laquelle il a partagé son avis. La CEDEAO propose que les élections soient reportées de 10 jours afin que le travail fait sur la liste électorale puisse satisfaire tous les acteurs. Les acteurs mécontents surtout, à leur tête l'opposition togolaise qui à maintes reprises avait tiré la sonnette d'alarme, dénonçant de graves anomalies dans le fichier électoral et réclamant un réexamen dudit fichier. Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition et principal rival de l'actuel président Niasimbe, à cette élection est allé même jusqu'à porter plainte à Bruxelles contre la société belge ZTS, chargée des opérations de révision des listes électorales au Togo, pour faux et usage de faux. L'ONG...
Une commission...
À la une de la presse ivoirienne ce mercredi, la décision du président Alassane Ouattara de nommer mardi l'archevêque de Boaké, le franciscain Paul Siméon Awana, à la tête de la nouvelle commission de réconciliation. Une commission de réconciliation a été créée à la suite des violences post-électorales qui ont déchiré la Côte d'Ivoire en 2011, après l'élection présidentielle de la fin 2010 qui a porté M. Ouattara à la présidence. L'ancien président Laurent Gbagbo avait refusé de reconnaître le résultat du scrutin. La commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, qui avait suscité des critiques pour ses dépenses et une absence de résultats tangibles, va être remplacée par la Commission nationale de réconciliation et d'indemnisation des victimes, la CONARIV. Cette commission a pour objectif de finir le travail de la CVDR et de procéder à l'indemnisation des victimes, a déclaré à la presse le secrétaire général de la présidence, Amadou Gon Koulibaly. L'Union européenne s'est engagée mercredi à fournir une aide supplémentaire de 160 millions d'euros à la Guinée-Bissau pour y consolider la démocratie et doper la reprise économique au sortir d'années d'instabilité. Cette aide a été promise lors d'une conférence internationale de soutien à Bruxelles, à ce petit pays d'Afrique de l'Ouest, rapporte l'AFP. Ces nouveaux fonds sont destinés à l'appui de la politique de la pêche, de la société civile, des droits de l'homme et de la démocratie, ainsi qu'à la gouvernance foncière en Guinée-Bissau et aux programmes régionaux, a précisé la Commission européenne dans un communiqué. Cette enveloppe s'ajoute à une aide de 127 millions d'euros engagée en faveur du pays d'ici à 2020 dans le cadre du Fonds européen de développement et qui doivent être prioritairement consacrés au secteur de la gouvernance, du développement rural et de la santé. Selon l'agence Reuters, les juges du tribunal spécial pour les crimes de guerre en Sierra Leone, dont le siège se trouve à La Haye, aux Pays-Bas, ont rejeté mercredi la demande de l'ancien président libérien Charles Taylor, qui souhaitait purger le reste de sa peine de prison de 50 ans au Rwanda. Taylor, 67 ans, a été reconnu coupable en 2012 de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre commis durant la guerre civile qui a déchiré la Sierra Leone pendant 11 ans, faisant plus de 50 000 morts et des milliers de mutilés. Il purge sa peine dans une prison britannique, mais avait demandé à être emprisonné au Rwanda où son épouse pourrait lui rendre visite plus facilement.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Des militants de l'État islamique ont revendiqué mercredi un attentat kamikaze perpétré mardi à Benghazi, en Libye, qui a coûté la vie à au moins 7 soldats. L'agresseur a précipité sa voiture contre un barrage de l'armée. Ces dernières violences sont survenues alors que les Nations Unies présentaient un plan pour faire avancer les pourparlers de paix dans ce pays fracturé où des gouvernements et milices rivaux se disputent le pouvoir. Les Nations Unies redoutent que le pays ne sombre dans l'anarchie. Le président français François Hollande, la chancelière allemande Angela Merkel et le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy se sont retrouvés mercredi à Seine-les-Alpes, dans les Alpes françaises, près des lieux du crash inexpliqué de l'Airbus A320 de Germanwings. Une des boîtes noires est en cours d'analyse. On écoute François Hollande.
Il est probable qu'il y ait bon nombre de victimes allemandes et bien sûr avec le roi d'Espagne qui nous rend visite aujourd'hui. C'est une tragédie, une nouvelle tragédie aérienne. Nous aurons aussi à connaître toutes les causes de ce qui s'est produit et nous les donnerons bien évidemment aux autorités concernées, aussi bien espagnoles qu'allemandes, et aux familles des victimes.
Le crash est pour nous tous inexplicable, a déclaré le patron du groupe aérien Lufthansa, Carsten Spohr. L'avion était techniquement irréprochable et les deux pilotes expérimentés. Pour l'heure, aucune hypothèse n'est écartée, hormis celle d'une explosion en vol, a répété mercredi le Premier ministre français Manuel Valls. Mais le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a précisé que l'hypothèse terroriste n'est pas privilégiée. Le président américain Barack Obama a affirmé qu'il est difficile d'imaginer une solution à deux États entre Israéliens et Palestiniens après que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou eût exprimé son opposition à un tel projet lors de la récente campagne électorale dans son pays. Le premier ministre Netanyahou a mis tellement de conditions pour une solution à deux États qu'il sera impossible d'y parvenir de sitôt, a dit M. Obama, en réitérant son opinion selon laquelle deux États israéliens et palestiniens côte à côte est la meilleure façon de parvenir à la paix dans la région. Et en Afghanistan, 6 personnes ont été tuées mercredi.
Soyez au cœur de l'info.